de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu que j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, 30 minutes pour parler de cinéma. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a deux ingrédients de cette émission. C'est le blind test et puis l'interview. Interview, ce seront Mathias Mlekudz et Philippe Rebaud pour le film À bicyclette. Et puis le blind test, ce sera autour des road movies, puisque c'est un film qui est un road movie à bicyclette. Mais toi, Sophia, tu as aussi vu un road movie bien différent.
Absolument, Vincent. Buddy Road Movie, il s'agit de Real Pain de Jesse Eisenberg.
Puis toi Guillaume, ce sont deux films qui se déroulent au Mexique.
Oui, bon, il y a un Drug Road Movie avec Queer et puis Chronos, donc pas la ressortie du film le premier film de Guillermo del Toro, mais sa première sortie en salle en France. On l'a vu juste en DVD.
Oui, et il avait été vu au Festival de Cannes, mais tout le monde ne va pas à Cannes.
Mais non.
Et oui. Mais nous commençons cette émission avec deux cousins qui se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère bien-aimée. C'est A Real Pain.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Alors si pour beaucoup, Jesse Eisenberg restera à jamais Mark Zuckerberg de Facebook, puisque son rôle dans The Social Network de David Fincher en 2010 lui colle un petit peu à la peau. Là, on a du plaisir à le retrouver ici, dans un projet bien plus personnel. Avec A Real Pain, il endosse non seulement le rôle principal, mais signe aussi le scénario et la mise en scène de son deuxième long métrage, après When You Finish Saving the World, qui lui aussi, bien que présenté à Cannes, n'a jamais connu de sortie en salle en France. Ici, Eisenberg plonge dans un récit intime, imprégné de sa propre histoire. Lui-même juif d'origine polonaise et ukrainienne, il choisit d'aborder la mémoire de la Shoah sous un angle inédit, une tragi-comédie familiale où l'humour, souvent caustique, se mêle à la gravité du sujet. Un pari plutôt audacieux, mais récompensé d'un prix pour le scénario au festival Sundance. À ses côtés, on retrouve Kieran Culkin qui, après son triomphe dans la série Succession, campe ici encore un personnage oscillant entre sarcasme et vulnérabilité, Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. David et Benji, deux cousins juifs new-yorkais que tout oppose, quittent les États-Unis direction la Pologne pour un voyage mémoriel en hommage à leur grand-mère récemment disparue. Pour cette odyssée, ils s'en remettent à une agence spécialisée dans les circuits touristiques de la mémoire de l'Holocauste. Ils rejoignent ainsi un groupe aussi hétéroclite que touchant, un couple de retraités, une femme d'affaires fraîchement divorcée, un Rwandais converti au judaïsme. Alors tous menés par leur guide James, l'excellent Will Sharp, universitaire prolixe, passionné par la Shoah, qui apporte une vraie rigueur historique. On l'avait vu récemment dans Emmanuel face à Noémie Merlan. Ici, il brille dans ce rôle mesuré et extrêmement bien caractérisé. Au fil du voyage, le groupe suit un itinéraire chargé d'histoire avec un point culminant, la visite d'un camp de concentration. Mais pour David et Benji, une étape supplémentaire les attend. Un détour par la maison de leur grand-mère, dernier vestige d'un passé révolu. Alors, tout le film repose sur l'antagonisme entre les deux cousins. D'un côté, David, interprété par Jesse Eisenberg, est l'homme rangé par excellence, marié, père de famille, il a une bonne carrière, il vit une existence ordonnée, mais rongée par l'anxiété. Tout chez lui est sous contrôle, jusqu'à ses boutons de chemise fermés jusqu'au col. De l'autre côté, il y a Benji, campé par Kieran Culkin, électron libre, à l'humour acerbe, dont l'attitude désinvolte masque une profonde mélancolie. Son personnage, nerveux et imprévisible, rappelle évidemment son rôle dans Succession, toujours à la limite du craquage. Mais ici, une tension supplémentaire fait planer une forme d'inquiétude qui contamine jusqu'au spectateur, puisque le débordement guette à tout moment. Ce duo bizarre fonctionne à merveille et leur périple ne manque pas de raviver des tensions enfouies pour ces deux hommes qui ont grandi ensemble et ne manque pas aussi de redistribuer les cartes des rôles admis. À travers leurs disputes et leurs moments de complicité, Eisenberg aborde un concept fascinant, la post-mémoire, ce stress post-traumatique indirect qui affecte les descendants de survivants de l'Holocauste notamment, héritiers de douleurs et de culpabilités fantômes. En quête de réponses impossibles sur l'identité, la judéité et la souffrance, David et Benji se débattent avec un fardeau qui n'est pas le leur mais dont ils assurent la tacite succession. Un poids qui se traduit autant par des angoisses diffuses que par un humour mordant, un va-et-vient entre autodérision et vertige existentiel. Si la bande-annonce laisse entendre des morceaux comme « That's the way we get by » de Spoon ou « You ain't alone » d'Alabama Shakes, le premier extrait qu'on entendait, le film lui baigne dans une toute autre atmosphère sonore, puisque seules résonnent les notes mélancoliques des nocturnes de Chopin et de la valse brillante qu'on vient d'entendre, accompagnant donc les personnages dans une odyssée mémorielle. Film d'auteur dans toute sa splendeur, « A Real Pain » impressionne par un script affûté et un sens du rythme impeccable, une œuvre singulière qui interroge avec humour et gravité la transmission de la mémoire et l'héritage invisible d'une douleur historique et familiale bien réelle.
C'était le premier road movie de cette émission A Real Pain en salle depuis le 26 février. Nous retrouverons le deuxième road movie un peu plus tard, mais avant, eh bien, on va aussi quitter les États-Unis cette fois-ci pour aller au Mexique. Et on va caser beaucoup de cases avec une adaptation de William Burroughs par le réalisateur de Call Me By Your Name. Et puis dedans, il y a quand même Daniel Craig et Jason Schwartzman. Nous parlons maintenant de Queer.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Quand il était étudiant à l'université de Rome et alors qu'il allait être diplômé dans ces mêmes murs en histoire du cinéma, Luca Guadagnino a écrit une thèse sur Jonathan Demme. Alors le grand est regretté, réalisateur de 5 femmes à abattre, dangereuse sous tout rapport, veuve mais pas trop, Le silence des agneaux, Philadelphia, mais aussi des concerts live ou des documentaires sur Neil Young ou les Talking Heads, a su mener sa barque entre films de tout genre, d'abord héritier de l'esprit Corman, puis ensuite profondément sociaux, pamphlétaires sur par exemple la condition des homosexuels ou encore thriller sous fond de Chianti qui allait révolutionner le film de Serial Killer. Alors sans oublier bien évidemment l'amour du rock et de la pop qui rythme certaines des séquences les plus célèbres de sa filmographie. Kevin Smith s'en est d'ailleurs rappelé dans le meilleur gag de Clerks 2 quand Jay imite Scott Glenn dissimulant son sexe entre ses jambes en dansant sur Goodbye Horses de Q Lazarus dans Le silence des agneaux.
We're all parts of a tremendous whole. Curse. There's no use fighting it.
Du Demme, il y en a effectivement beaucoup chez Guadagnino, et ce n'est pas Queer qui va démontrer le contraire. Alors si nous ne sommes pas dans du genre pur et dur, à savoir du fantastique ou de l'horrifique comme son remake Casse-gueule, mais pas dénué d'intérêt de Suspiria de Dario Argento et la romance cannibale Bones and All, il ne délaisse pas forcément les arguments graphiques pour les besoins de son adaptation d'un auteur. Alors ben oui, quand on s'intéresse à l'œuvre de William S. Brew, chantre des paradis artificiels, ben, il faut s'attendre à du hors-piste et à une vision qui n'hésite pas à convier de l'inédit à l'écran. David Cronenberg l'avait bien compris en adaptant Le Festin Nu en 91, une grande bouffe de plans peu ragoûtants pour aller toujours plus loin dans l'univers mental complexe de son auteur. Queer nous amène dans un Mexico des années 50, terrain de chasse de Lee, un Américain qui mène une vie désabusée et dissolue au sein d'une communauté d'expatriés. Son quotidien est fait d'alcool fort et de sexe rapide en semi-clandestinité avec des hommes plus jeunes que lui. L'arrivée d'Allerton, un éphèbe poupin, va bouleverser son existence au point de faire une fixette sur lui et de lui faire une proposition assez improbable. Alors ayant entendu parler d'une drogue hallucinogène du nom de Yagé trouvable au fin fond de la jungle de l'Amérique du Sud, développant la télépathie et provoquant la fusion des corps pour ne faire qu'un, et il arrive à le convaincre de le suivre dans ce périple qui a tout de la dernière chance pour cette âme en peine noyée dans le fond de ses vers.
Et là, on écoute un extrait de la bande originale du film qui est très marqué par la musique pop. Il y a des emprunts à Nirvana. Là, on écoutait New Order.
Oui, c'est quelque chose que n'aurait pas renié Demi. Hein. Comme je disais, Demi, il y en a effectivement beaucoup dans Guadagnino et Queer. Hein. Bah, de son exploration du désir masculin et homosexuel, qui répond bien sûr fortement à Call Me By Your Name, en passant par une mise en scène qui ne reprend pas stricto sensu à la marque de fabrique de Demi, hein, à savoir des dialogues qui basculent lentement vers des regards caméra bouleversants, mais usent du plan fixe et du chant contre chant presque de face pour un effet similaire. Alors il y a également à l'usage de la musique pop-rock, hein, comme tu l'as souligné, hein, qui confère ici un sentiment aussi intemporel à ces thématiques bah, qu'anachronique hein, et un peu dérangeant dans son cadre. On entend par exemple plusieurs fois Nirvana, hein. Il y a aussi le basculement dans sa dernière partie vers un fantasmagorique beaucoup moins convaincant lui aussi, mais surtout à cause de l'un des défauts, bah, je pense, inhérents hein, au cinéma de Guadagnino, bah, contrairement à celui de Demi, c'est-à-dire la durée de ses films. Alors si on sent une sincérité évidente et un amour total hein, de son récit, c'est encore une fois bah, bien trop long pour véritablement adhérer au parcours et à l'intimité d'un homme bah, somme toute très très peu aimable. Et ce, bah, malgré le talent évident de Daniel Craig, visiblement ravi hein, de complètement briser son image de James Bond dans un rôle que l'on n'aurait bah, pas pu faire plus opposé. Et je trouve personnellement que bah, l'exploration visuelle d'esprit sous emprise de drogue était un peu plus pertinente dans Otherworld et Blueberry hein, de Ian Kounen, il y a quelques années de ça déjà. Bou, s'étant très très peu adapté hein, et difficilement adaptable, bah, Queer reste quand même une curiosité, je pense, très saluable, hein, mais qui, je pense, aussi rencontrera, bah, pour toutes ces raisons, un avis assurément franchement tranché du public.
Alors moi, c'est un film que j'ai vu et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, il y a vraiment une tonalité visuelle qui est impressionnante. Alors, effectivement, il y a un peu de fantasmagorie. Et dans la mise en scène, je trouve qu'il y a quelques bonnes idées entre les intentions du personnage, c'est-à-dire que le personnage vit une action qu'on voit, nous, spectateurs, mais on voit aussi ce qu'il aimerait vivre, c'est-à-dire toucher un corps. Enfin, souvent, c'est ça. Hein, c'est
oui,
quand même toucher un corps.
Là, voilà.
Et
ouais.
Donc, il y a de la surimpression d'image. Il y a ça qui est très présent. Il y a effectivement alors, ce parti pris de mettre de la musique complètement anachronique. Et puis, on est dans un Mexico qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui n'est pas le Mexico du tout du Mexique. C'est-à-dire que c'est la technique de Jacques Audiard. Hein. On va dans des studios. Là, je crois que ça a été Cinecittà en Italie. Enfin, voilà. Ce n'est pas du tout le Mexique qu'on connaît. Mais ça, ce n'est pas grave non plus. Enfin, on est dans une espèce d'ambiance un peu étonnante jusqu'à se retrouver en plus en plein milieu de la forêt alors équatorienne, je crois. Voilà, avec des séquences assez étranges, avec quelqu'un qui finalement va chercher alors une drogue. Alors, il est toxicomane, mais il va chercher une drogue qui l'emmène vers la télépathie, c'est-à-dire à faire rentrer quelqu'un en lui ou lui rentrer en quelqu'un. Et c'est toute une espèce de recherche existentielle qui est très présente alors, dans l'œuvre de William Burroughs, de toute façon. Et c'est vrai que ce n'est pas facilement adaptable, mais je trouve que la facture visuelle est très, très, très impressionnante. Alors, tu as raison, 2h17. Mais c'est quand même suffisamment agréable, je veux dire, à l'œil pour nous laisser porter par Daniel Craig, qui est vraiment alors, solide dans cette interprétation de l'homosexuel perturbé.
Oui, c'est très sérieux hein. comme adaptation, c'est très solide. Mais comme je disais, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que même si les films sont discutables, je trouvais que tout le côté psychotrope et puis projection astrale, en fait, hors du corps, était franchement mieux filmé chez Ian Kounen, qui l'avait mis au sein de son cinéma pendant un moment et qui avait réussi un pari très risqué avec la compagnie Buff. Compagnie française, hein, à matérialiser ce que par essence on ne voit pas mais on ressent. Et ça m'a un petit peu manqué en fait dans Queer.
Eh ben en tout cas, si on veut voir aussi un autre film de Luca Guadagnino, le Call Me By Your Name, alors le dernier dialogue entre le père et le fils joué par Timothée Chalamet restera un des grands moments de cinéma en ce qui me concerne. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Allez, Mathias embarque son ami pour faire le voyage que Yuri, son fils, avait entrepris à vélo avant de disparaître tragiquement. Nous parlons de À Bicyclette.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
À Bicyclette de Mathias Mlekuz est un film simple. Comédien-réalisateur a pris avec lui son pote, le comédien Philippe Robot, pour refaire à vélo le trajet que son fils Yuri avait fait de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Noire avant de se suicider. Alors les deux ne sont pas de grands athlètes, hein. Combien de temps dure ce voyage, on ne sait pas vraiment. Ce n'est pas tant la dureté de l'épreuve qui est montrée que des séquences sur le deuil et l'amitié. C'est aussi simple que ça, une grande place est faite à la spontanéité dans les situations et dialogues, et puis les beaux paysages traversés ne gâchent rien, il y a plus de 180 heures de rush, donc ils ont pu choisir les meilleurs passages de la France, de l'Allemagne, de la Roumanie et de la Turquie.
Quand on refait le voyage qu'a fait mon fils, il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie. J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre.
À bicyclette est donc une belle surprise qui a remporté le prix du public du festival d'Angoulême, festival francophone, et même le prix de la mise en scène, ce qui a fort étonné le réalisateur Mathias Mlekuz et Philippe Rebaud, que nous avons rencontrés et que nous écoutons maintenant.
Au départ, moi, tout de suite après la mort de mon fils, j'ai senti le besoin de faire des choses. Je me suis mis à faire du clown, je suis parti aussi en voyage avec mon autre fils au Brésil. Et j'ai proposé à Philippe de faire ce voyage-là avec moi, de partir en vélo. Au début, on n'a pas proposé un film. J'ai proposé à Philippe un voyage. Et c'est Philippe qui a dit, mais quitte à faire un voyage,
faisons un film. Oui, non, mais en gros, j'étais face à un principe de réalité qui est, ok, mon vieux, moi, je veux bien te suivre. Pour t'aider à vivre ces moments-là, mais faire du vélo tous les deux, si je nous compare à ton fils qui avait à la fois du temps, 26 ans, et qui était en pleine forme, si je nous regarde tous les deux, nous on met 2 ans à aller jusqu'au bout du truc, avec tous les dangers que ça peut représenter. Mais puisque nous sommes acteurs et réalisateurs, viens, on en fait un film. En gros, c'était plus qu'un hommage, puisque je voulais reprendre un truc, c'est pas inspiré de sa vie, c'est sa vie. Vous voyez, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est même ça qui est dans le film, c'est qu'on filme un bout de vie. Et voilà, non, c'était comme si on avait été sculpteur, on aurait fait une sculpture, un hommage sous forme d'une sculpture. Enfin, voilà. Et si on avait été poète, on aurait fait un poème. Et si, enfin, ou lui, ou donc, l'idée, c'était, ben, servons-nous de ce qu'on sait faire pour sublimer ce moment.
Ensuite, on est allé voir le producteur de mon premier film, Marc-Étienne Schwarz, qui est un ami. Et c'est lui qui m'a dit, ben, ne perdez pas de temps à écrire un scénario, partez en improvisation, allez-y. Moi, je veux bien jouer, entre guillemets, mon propre rôle, faire ma propre vie dedans, mais il faut que ça aille vite. Et finalement, on a obtenu des financements assez vite et on est parti un an après.
Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant, mec, regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon.
Ce qui est beau, c'est leur amitié. C'est la vraie vie, quoi. Non.
On a repris la plage d'Étré près de La Rochelle, là où était parti mon fils, avec les personnes qui étaient présentes ce jour-là, ce qui était présent 5 ans auparavant. Il y a beaucoup de la famille qui est là. Et puis ensuite, on est parti comme ça sur les routes, et puis on a filmé au petit bonheur la chance. On avait un itinéraire qui était donné par le carnet de voyage de mon fils. Et je savais ses principales étapes. Sur les photos, j'avais pu repérer des lieux. Il y avait des photos où je ne savais pas où ça a été pris, comme par exemple la statue de Yuri Gagarin. Et pour le Airbnb de Vienne, alors là, je savais qu'il avait été un Airbnb, mais je n'ai pas retrouvé l'adresse. Du coup, j'ai demandé à une amie, qui est une Autrichienne, qui vit à Vienne, de nous accueillir chez elle et de nous expliquer les règles de sa maison.
Ah. On ne va pas s'arrêter là, allez, viens !
J'en peux plus.
C'est la première fois que je fais un truc par amitié, vraiment.
Allez, 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 avance.
Mais ça passe pas.
Et en même temps, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça peut servir? Un ami l'a outé.
Ce qui est scénarisé, c'est l'idée de partir à vélo avec un père endeuillé et son ami. Et après, voilà, et on va voir Marzi. On va voir Marzi, qui est la dernière femme à qui mon fils a dit « je t'aime » par un texto. Et voilà, cette Iranienne, je ne la connais pas. Pareil, il a fallu tout s'arranger pour qu'elle vienne, etc. D'Iran, elle habite à Téhéran.
On ne s'est pas scénarisé, c'est fictionné, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est rentré dans les trucs en se disant le fait qu'il y ait une caméra va nous mettre en position un peu de fiction. Moi, je porte un costume pour une fiction qui m'appartient, mais du coup, ça me met aussi, je me dis, tiens... Je fais un personnage de moi-même, moi-même jouant un personnage de moi-même, enfin bon. Mais en tout cas, c'était pas dans la scénarisation que ça s'est passé, c'est juste dans le fait de poser une caméra, ben là, c'était de la fiction. Et en même temps, en effet, tout s'est inventé, enfin chaque dialogue est inventé au fur et à mesure, selon un dialogue, comme on fait là. C'est-à-dire, voilà. Selon ses questions, ou selon mes questions, on répondait, et puis on voyait après. Après, c'est le montage qu'a fait le reste.
Alors attention, parce que oui, c'est ça, il y a 180 heures de rush. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite les scènes comme on vous les livre.
Hello.
Mathias.
Adriane, ich will keine Brösel auf meinem Sofa.
Je n'aime pas les miettes à la mosquée.
Je me fous la trouille.
Sonst, Strafe.
Sinon, punition.
Non, je m'attriste, hein. C'est une ode à la vie en réalité.
Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant, mec. Regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. C'est une vraie leçon.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas mis en scène la pénibilité du vélo, les côtes, le froid, la pluie. On n'a pas eu de pluie. Moi, on a attendu la pluie qui n'est jamais venue.
On espérait, on avait
on était prêts, on avait les câbles de pluie,
on voyait l'image, on s'imaginait en câble de pluie à travers la Roumanie, par exemple.
Mais il a plu un soir sur la tente, on entend mais on était sous la tente, on était en train de monter la tente.
Soyons joyeux, soyons joyeux. Si on a le choix de faire le choix, soyons joyeux.
Enfin, c'est ça un ami, c'est que je sais qu'il peut supporter mes disputes, puisque quelque part, c'est pas qu'il en a rien à foutre, mais il se dit ok, il va s'énerver. Mais, alors, pour être tout à fait honnête, elles démarrent toujours, c'est souvent moi qui les démarre, puisque je suis soupolé, comme dirait mon fils. Donc, c'est moi qui m'énerve, et après, là, on a la grosse dispute, là où on est paumé, vraiment, enfin, où j'ai eu peur, en Roumanie et tout ça. Après, il y a une espèce de relais qui est quand même. Je suis traversé par Michel Piccoli qui tape sa colère dans le clos de sauté. Je me dis, c'est un peu ça qu'on fait. Et maintenant qu'on y est, vas-y, fais-en. Et trouve même des répliques après. C'est l'idée de la faire glisser vers un truc un peu marrant. Et aussi pour se réconcilier, pour dire, c'est pas grave. En réalité, c'est comme un signal que j'envoie à Mathias en disant, c'est bon, en fait, il n'y a pas d'engueulade.
C'est un film d'acteur, en fait. Nous, on sait qu'on est acteur. On n'est pas. Et donc là, ça part effectivement toujours d'un moment, parce que Philippe a eu peur, il a failli quand même se prendre la bagnole dans le rond-point, ça c'est pas une cascade. Hein. Ouais, après, t'étais chargé aussi, donc, oui. Et donc moi j'avais peur, parce que j'ai eu peur effectivement que chargé, il puisse se prendre une bagnole. Et donc on était très tendus. On était très tendus, et après, on dit pas allez, viens, on se réconcilie, on est acteur, donc on pousse ça. On pousse là, puisqu'on est dans la prise, hein. Tout ça se fait dans la foulée. Dans la prise, on continue, et on s'engueule, et voilà, on essaye de faire une séquence là-dessus où on s'engueule. Ouais.
Alors, je suis resté à peu près une demi-heure avec Mathias Lécuze et Philippe Rebaud. J'aurais pu vous passer l'intégralité de cette interview, j'ai passé un très très bon moment, donc, avec les deux protagonistes du film À bicyclette, en salle depuis le 26 février. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial road movie.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Le blind test, c'est simple, ce sont 5 extraits. Écoutez, il faut trouver le titre. Premier extrait.
Quand est-ce que tu vas rentrer à Denver?
J'en sais rien. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais peut-être retrouver mon fiancé.
T'es fiancé?
Ouais, un marin. Il est parti longtemps en mer, il est gentil.
Eh bien?
J'aimerais tant que Dean soit un peu plus tranquille.
À ta place, je compterais pas trop là-dessus.
Je voudrais une maison. Un bébé. Tu vois, une vie normale. J'ai vraiment envie de ça.
Ça n'a pas été trouvé ici dans les studios. C'est un film sorti en 2012. Avec c'est comment, Kathleen Seaworth, je sais
pas.
Ah,
c'est sur la route.
Sur la route,
de
oui.
Walter Salles.
Mmh. Oui, Walter Salles. Adapté donc du roman du même nom de Jacques Kerouac, trois jeunes êtres assoiffés de liberté qui vont prendre la route allant à la rencontre du monde des autres, et d'eux-mêmes 375 000 entrées en France pour ce film. Deuxième extrait.
Quand j'étais à l'armée, j'ai connu un gars de Pittsburgh. Sauf qu'il disait Tétesburg. Il disait que les habitants avaient de gros tétés.
C'est absurde. Les femmes de Pittsburgh n'ont pas de plus gros seins que les femmes de New York.
On verra quand on y sera, hein. Hein? C'est drôle, quand vous m'avez engagé, ma femme a foncé chez le disquaire pour acheter votre disque sur les orphelins.
Les orphelins?
Ouais. Celui où sur la pochette il y a des gosses et un feu de camp.
Orphée.
Hein?
C'est Orphée aux enfers, d'après un opéra français. Ce n'étaient pas des enfants sur la pochette. C'était des démons et les flammes de l'enfer.
Sans déconner, ça aurait pu être des sales gosses.
Abysse culturel.
C'est Green Book.
Oui, de Peter Farrelly, sorti en 2018 avec Viggo Mortensen qu'on entend et Mahershala Ali. Alors, il s'agit d'un film biographique sur une tournée réalisée dans les États du Sud en 1962 aux États-Unis par le pianiste Don Shirley et son chauffeur et garde du corps Tony Vallelonga, que tout oppose. Et le Green Book est donc un livre qui permet de dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur pour que le pianiste ne soit jamais embêté. 3 Oscars, dont celui du meilleur film, 2 millions d'entrées en France. 3e extrait.
Comment on en est arrivé là? Pourquoi on ne s'est pas parlé depuis un an? Prenons un engagement.
Vous
faire quoi?
D'accord. Ah, je veux qu'on redevienne frères comme on l'était autrefois. Je veux qu'on arrive à se trouver et à créer des liens entre nous. On est d'accord avec ça?
D'accord. Ouais.
B, je veux qu'on fasse de ce voyage une quête spirituelle où chacun de nous cherchera à l'inconnu et où il apprendra de lui. On est d'accord avec ça?
Oui. Ouais,
ouais. C, je veux qu'on soit complètement ouvert, qu'on dise oui à tout ce qui se présente, même si c'est choquant et pénible. On est d'accord avec ça?
C'est trouvé.
C'est à bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson?
Oui, sorti en 2007, l'histoire de trois frères américains qui font un long voyage en train à travers le nord de l'Inde. Un an après la mort de leur père, leur périple est parsemé d'incidents loufoques et guillés des rencontres inattendues. 418 000 entrées en France pour ce film. Allez, maintenant, c'est un film français.
Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop, remballez! Vous êtes la honte du paysage français! J'aime l'hiver! Parce qu'il m'épargne votre spectacle! On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades!
Oh, vous faites du mal, Michel!
Ils vont se multiplier! Faut leur enlever la garde de leurs enfants! Tiens mieux! On va les stériliser!
Oui, oui. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission!
Alors oui, bon, y avait des gens qui faisaient un pique-nique.
Ouais, c'est trouvé. Le chef-d'œuvre de Patrice Leconte, c'est Tandem.
Oui, sorti en 87 avec Jean Rochefort et Gérard Jugnot qu'on entend. Mortaise est l'animateur de La Langue au Chat, une émission type Le Jeu des 1000 euros. Et c'est Riveteau qui l'emmène partout, installe le studio. Quand il apprend que l'émission va s'arrêter, il ne dit rien à son complice. 600 000 entrées en France. Dernier extrait de ce blind test consacré au road movie.
Il y a longtemps que vous êtes sur la route?
Oh, j'ai passé presque toute ma vie à voyager.
Vous êtes d'où?
De Lorenz.
Vous avez une femme là-bas? Des enfants?
Ma femme Frances a mis au monde 14 bébés. 7 d'entre eux ont vécu. Ma fille Rose vit avec moi.
Alors, c'est pas trouvé. Alors bon, c'est la voix, c'est un vieux monsieur. Le réalisateur est mort il y a peu de temps.
Ah, une histoire vraie.
Oui, réalisé par David Lynch, sorti en 99. Alvin Streif est bien décidé à rejoindre son frère qu'il n'a pas vu depuis 10 ans et qui a subi une attaque. N'ayant pas de permis, il prend sa tondeuse à gazon. Ainsi se referme ce blind test consacré donc au road movie. Le film est resté inédit en salle. Nous allons parler de Chronos de Guillermo del Toro.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Au XVIe siècle, un alchimiste invente un étrange mécanisme, l'horloge de Chronos, permettant d'accéder à la vie éternelle. Alors au début des années 90 à Mexico, Jesus Gris, un vieil antiquaire, découvre l'horloge dissimulée dans une statue. L'objet lui injecte un puissant venin qui lui redonne force et jeunesse, mais le rend dépendant au sang humain. Alors devenu un monstre, Jesus ne peut compter que sur l'aide de sa petite fille. Le duo doit lutter contre un richissime homme d'affaires rongé par la maladie, prêt à tout pour posséder le mystérieux appareil. Alors on dit souvent, et souvent de manière exagérée, qu'une première œuvre contient toute la semence de son auteur. Il est quand même difficile de nier le fait qu'il y a déjà énormément du cinéma de Del Toro dans Chronos. Alors son appétence pour les mythes anciens et gothiques revisités au goût du jour, le jonglage entre passé et présent, la présence déjà de Ron Perlman qui deviendra l'un de ses acteurs récurrents, une fétichisation des insectes, une petite fille éclairée face à la propagation du mal, une réflexion sur le temps qui passe et la place de l'amour dans cet étau implacable qu'est la mortalité des hommes. À l'instar de films comme Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow en 87 ou Vampire de John Carpenter en 98, Del Toro s'affranchit du mythe du suceur de sang tel qu'il a été majoritairement utilisé tout au long du XXe siècle dans l'ombre du Dracula de Bram Stoker, sans dénaturer pour autant la puissance d'évocation de la créature et des symboles qui vont avec. Alors il est d'ailleurs amusant de noter que ces regards singuliers amèneront plus tard dans leur carrière respective Bigelow et Del Toro à gagner l'Oscar du meilleur film et Carpenter d'être récompensé tardivement d'un Carrosse d'or au Festival de Cannes. On note également que Chronos, malgré sa modestie, aura fait son petit chemin dans la pop culture. Cette horloge vampirique en forme d'araignée qui se fige sur la poitrine et vous contrôle se retrouvera par exemple employée telle quelle dans Les Resident Evil de Paul W.S. Anderson, gros film d'action hollywoodien inspiré de la série de jeux vidéo du même nom et surtout témoignage de l'amour profond qu'a le Britannique pour le cinéma fantastique mondial. Ben moi je trouve que c'est franchement pas mal pour un premier essai et je pense que ça sera un peu prometteur pour la suite.
Et, oui. Et à noter une très très bonne interview dans Le Monde datée mercredi 26 février de Guillermo del Toro qui raconte bien que la création de son seul film tourné au Mexique.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, on parlera de Mickey 17, le dernier John Bong-ho, et puis nous parlerons aussi de Black Dog et de Système Victoria. À la semaine prochaine.